le 6-9 du week-end. Éric Delvaux sur France Inter.
Débat ce matin sur l'idéologie de la transparence, le big data qui stocke nos données numériques, notre banquier qui en sait peut-être beaucoup sur nos déplacements, nos achats, notre employeur qui pourrait en savoir beaucoup sur nos conversations privées, notre dossier médical qui pourrait ne plus rester secret et ce sont les assureurs qui se frottent déjà les mains. Voilà comment cette transparence nécessaire pourrait aussi devenir un enfer. Mortelle transparence, c'est le titre de ce livre qui sort chez Albin Michel, co-signé de nos deux invités. Denis Oliven, bonjour.
Bonjour.
Grand patron des médias et de la culture. Également Mathias Chiche-Portige, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat spécialiste du droit des médias et du droit pénal. Je vais commencer avec vous, Mathias Chiche-Portige, car vous êtes aussi l'avocat de Gérald Darmanin. La plainte pour viol le concernant a été classée sans suite. Mais entre-temps, cette plainte, elle a fait son boulot, médiatisée au nom de la transparence de l'information, amplifiée par les réseaux sociaux. À vos yeux, est-ce que ça illustre la dérive que vous commentez, que vous détaillez, de la transparence que vous détaillez dans ce bouquin ?
Ça illustre ce que nous dénonçons avec Denis, c'est le tribunal du buzz. Le tribunal du buzz, c'est cette enceinte sans avocats, sans procédure, même sans juge, où chacun donne son opinion, tandis que ces affaires-là doivent se traiter devant des magistrats et dans le cadre d'enquêtes contradictoires. Mais le sujet, ça n'est pas tel ou tel ministre. Le sujet, ce sont nos auditeurs. Car nos auditeurs sont potentiellement les cibles de dénonciations calomnieuses, de chantages, de menaces. Et c'est tout l'objectif de ce livre que d'attirer l'attention, que de faire vivre le débat sur ces sujets, puisque la présomption d'innocence, qui est un principe fondamental d'une société démocratique, doit être protégée.
Alors, il y a d'autres cas dans l'actualité. Laurent Wauquiez qui menace l'émission de Yann Barthès de poursuites judiciaires pour avoir diffusé des propos peu flatteurs envers Nicolas Sarkozy, envers Gérald Darmanin encore, ou envers Emmanuel Macron. Propos tenus devant des étudiants, des étudiants en management. Cette éventuelle poursuite, est-ce qu'elle est fondée à vos yeux ? Et on va poser la question de Denis Oliven.
Ce qu'on dit, Mathias et moi, c'est qu'il y a une bonne transparence et une mauvaise transparence. C'est comme le cholestérol. Il y a un bon et un mauvais cholestérol. La mauvaise transparence, c'est celle qu'on a évoquée tout à l'instant, c'est-à-dire le tribunal du buzz, le fait d'être déféré devant sur les réseaux sociaux sans la présomption d'innocence, sans les droits de la défense, etc. Mais il y a une bonne transparence qui vise par des moyens d'enquête journalistiques, évidemment...
Dans l'intérêt général, dit la loi de 1881.
Exactement, et dans un cadre juridique qui protège les parties. Et dans ce cadre-là, les journalistes, c'est reconnu par les tribunaux, c'est reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, ont le droit d'enquêter, d'investiguer, de franchir éventuellement les limites de la vie privée si c'est pour une cause d'intérêt général et si les moyens qu'ils utilisent sont proportionnés à cette cause.
Et qu'il n'y a pas d'objectif de lynchage, nulle part.
Donc révéler les conversations tenues devant des étudiants d'un homme politique de premier plan qui apprennent des choses utiles au débat, ça fait partie... Alors après, ça serait une discussion qui aura lieu sans doute devant les tribunaux. Mais sur le plan des principes, ça, c'est une transparence qu'on peut trouver légitime parce qu'elle vise, au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, au moment des Lumières en France, lorsqu'on a inventé la transparence, c'était précisément pour ça.
Contre l'obscurantisme.
Contre le secret dans lequel, à l'abri duquel, le despotisme, l'arbitraire se dissimulait. Donc mettre à nu les pouvoirs, mettre à jour certaines de leurs turpitudes ou, en l'occurrence, des propos qui sont inquiétants, ça fait partie des règles de la démocratie, et c'est pour ça qu'on est une société libre.
Et justement, dans ce livre, vous décrivez ce totalitarisme doux, qui est une expression qui vient en fait de Grande-Bretagne, les algorithmes des GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook et Apple, qu'y a-t-il précisément de dictatorial, fût-il en douceur, dans ces outils numériques ?
Ce qui est singulier dans cette dictature, c'est que nous en sommes les principaux instruments. Ça n'est pas un régime politique. La domination, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, elle vient de nous-mêmes, absolument. Et au fond, c'est ce qui rend également les choses difficiles, à la fois pour la prise de conscience, parce qu'évidemment la société numérique apporte tout un tas de bienfaits, mais également pour en réguler les effets pervers et les excès.
Ce qui fait pourquoi est-ce qu'on parle de totalitarisme ? Parce que au moment où, au XVIIIe siècle, on inventait la transparence des pouvoirs, on inventait aussi la protection de la vie privée des citoyens. Le fait que vos goûts, vos préférences, vos relations amicales, amoureuses, sexuelles, sociales, relèvent de votre seule souveraineté. Et à partir du moment où des instruments numériques extrêmement puissants, combinés avec une certaine idée que désormais vous n'avez plus à rien, tout doit être sur la place publique, on rentre dans une société dans laquelle les libertés et les droits des individus sont menacés. Je vous donne des exemples concrets de ce que c'est que ce totalitarisme doux. Facebook connaît, a en moyenne 88 renseignements sur chacun de ses utilisateurs. Il sait ce que vous mangez, comment vous conduisez, il sait quelle est votre religion. Il recoupe ces renseignements sans que vous le sachiez nécessairement. Il vous profile. Et donc, au fond, vous êtes devenu transparent pour Facebook, mais à quelle fin? Voilà, donc c'est ça que le soft totalitarisme, le totalitarisme doux, c'est ça. C'est qu'on est dans une société dans laquelle les droits et les libertés des individus sont menacés.
Tous ces secrets médicaux, secrets d'affaires, secrets bancaires mis à mal, vous écrivez que les technologies organisent la porosité des secrets. Si c'est organisé, qui est à la manœuvre ?
Il n'y a pas de manœuvre organisée dès lors que on n'imagine pas que les principaux dirigeants des GAFA se réunissent dans une pièce pour pouvoir exploiter, je dirais, nos données. Il n'y a pas de démarche concertée. Il y a un système qui, tel qu'il est, dans cette dynamique en place aujourd'hui, crée une menace considérable. Je vous donne un exemple. Notre smartphone, celui que nous avons tous dans nos poches, c'est une arme d'information massive. Elle est cette arme d'autant plus difficile que c'est un peu un doudou, un smartphone. On le regarde de manière compulsive des dizaines, voire pour certains des centaines de fois dans la journée. Et cette difficulté-là, c'est que, par exemple, de simples données de géolocalisation suffisent à savoir que vous vous rendez dans un hôpital, chez un psychologue, dans un centre d'addiction. C'est la raison pour laquelle il faut être très, très, très attentif.
Dans les années 70, à peu près au moment où Stevie Wonder écrivait la chanson avec laquelle on a commencé, Michel Foucault décrivait le fait qu'on était passé d'une société dans laquelle le pouvoir de l'extérieur s'imposait à la société, à une société dans laquelle il y avait une espèce de contrôle immanent.
La société de l'opinion.
La société de surveillance, la société de contrôle. Donc il n'y a pas un grand architecte qui nous surveille. C'est une maladie auto-immune de la démocratie. C'est nous-mêmes qui sécrétons notre auto-surveillance, le contrôle social généralisé. Et c'est un changement radical dont nous ne mesurons peut-être pas assez les effets, les causes et les effets.
Et on verra dans la deuxième partie de l'interview qu'on n'est pas prêt de faire marche arrière. On va y revenir. Et puis il y a aussi la question de l'oubli numérique. Soi-disant, cet oubli mieux pris en compte depuis 2012. Dans les faits, où en sont les tentatives de droit à l'oubli sur Internet ?
C'est une question extrêmement intéressante parce qu'effectivement, le droit à l'oubli, il existe juridiquement de manière abstraite puisque la Cour de justice de l'Union européenne a consacré un principe. Mais vous voyez, il y a un texte en ce moment au Parlement qui est en discussion, dont on parle, à mon sens, pas suffisamment sur la protection des données personnelles. Ce texte, on attend 10 décrets d'application, 3 arrêtés. Il est absolument illisible. Même les spécialistes n'y comprennent rien.
Vous êtes un avocat de médias et vous n'y paniez rien.
Alors, à titre personnel, c'est mon métier dont je m'y intéresse un peu,
mais
sauf à être un hyper spécialiste, je veux dire pour, alors qu'il y a quand même un principe d'accès au droit qui est fondamental. Lorsque c'est sur une réglementation hyper spécifique qui ne concerne que certains, c'est pas très grave que ce soit très technique, mais lorsque ça concerne la vie des gens, leur vie privée au quotidien, il y a là une vraie difficulté. Le problème, ça n'est pas la volonté des uns et des autres qui, je pense, participent aujourd'hui aujourd'hui d'une prise de conscience, et ce livre en est l'objectif, c'est davantage l'effectivité de ces dispositifs et leur accessibilité au public.
Denis Oliven, Mathias Sijportich, vous rappelez quand même toutes les deux que vous êtes des défenseurs du progrès numérique. Il ne faudrait pas avoir une contre-lecture de votre livre. Vous appelez un sursaut citoyen. On va voir ça dans la deuxième partie de l'interview. Je rappelle donc le titre de votre livre, Mortelle Transparence, qui paraît chez Albin Michel. On va reprendre cette interview après la revue de presse de Charlotte Piret. Il y aura également la question de Patricia Martin. Les questions des auditeurs, vous appelez le standard 01 45 24 7000. Question ce matin à Denis Oliven et Mathias Sijportich.